BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Thomas Asportas.
Bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a cette réunion, ça se tient en ce moment même, cette réunion à haute tension entre Bruno Le Maire et le ministre chinois du Commerce. Il est de passage à Paris. On va parler forcément voitures électriques, on va parler aussi importation de cognac en Chine, panneaux solaires. La France plaide pour une préférence européenne, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire aujourd'hui. Mais elle doit aussi bien évidemment ménager la Chine à un mois de la visite de Xi Jinping en France. On va vous raconter tout ça ce soir dans Good Evening Business. Sinon, c'est aujourd'hui la réunion de la dernière chance pour les partenaires sociaux pour tenter de trouver un accord sur la fameuse question de l'emploi des seniors. On en parle avec l'un des députés aux avant-postes de la réforme de l'assurance chômage promise par Gabriel Attal. C'est le député Marc Ferracci, vice-président du groupe Connaissance et l'invité d'Edwige Chevrillon dans 10 minutes dans la grande interview. Et puis à 18h30, nos experts arrivent et on a encore beaucoup d'autres sujets à voir avec eux ce soir, et notamment cette question qui revient, vous allez me le dire, tous les printemps avec le début de la saison des assemblées générales. Est-ce que Carlos Tavares mérite sa rémunération? Est-ce que le patron de Stellantis vaut 36 millions d'euros? C'est ce que propose le board de Stellantis. Ce sera évidemment un sujet polémique au cœur du débat ce soir de Good Evening Business. C'est parti, on est en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Et avant de parler de la rémunération de Stellantis, on va s'intéresser à une autre entreprise qui fait l'actualité quasiment tous les jours. Bonsoir Mathieu Pechberti. On parle d'Atos en l'occurrence avec cette réunion cruciale qui se tient en ce moment même pour l'avenir du groupe. Atos réunit ses créanciers pour leur présenter son plan de sauvetage qui va être dévoilé demain matin. On le sait, il y a plus de 4,5 milliards d'euros de dettes à restructurer, mais on sait déjà qu'une grosse partie de la dette va être annulée et qu'une augmentation de capital massive est dans les tuyaux.
Oui, exactement. Cette réunion est très importante puisque les créanciers vont enfin apprendre à quel sauce il va être mangé finalement. Hein, les banques et les fonds d'investissement créanciers d'Atos, la société va leur annoncer son plan de restructuration. Donc effectivement, comment elle voit l'avenir pour redevenir rentable ou en tout cas fonctionner comme une entreprise normale qui a perdu plusieurs milliards d'euros sur ces trois dernières années. Il y a effectivement un peu plus de 4,5 milliards d'euros de dettes. Les investisseurs globalement et les créanciers s'attendent à une annulation de la dette très très forte, environ la moitié. On n'a pas de chiffres aujourd'hui, il y a différents scénarios, mais c'est en gros ce à quoi ils s'attendent, et le reste des dettes serait refinancé, donc rééchelonné sur plusieurs années, et en contrepartie il y aurait effectivement une augmentation de capital. Là encore, les chiffres varient beaucoup, on est entre 500 millions et 1 milliard d'euros pour les plus pessimistes, et les repreneurs pourront ensuite se manifester auprès de l'administratrice judiciaire Hélène Bourboulou. Oui. Le premier d'entre eux qui se manifeste depuis maintenant plusieurs semaines, c'est David Layani. Oui. Le fondateur de OnePoint, premier actionnaire d'Atos, qui vient de s'associer avec l'investisseur français Walter Butler.
Voilà, alors ça c'est l'annonce des derniers jours. On a effectivement ce tandem Butler-Layani pour la reprise et la relance d'Atos. On a aussi, d'après vos informations, l'État et Dassault qui sont à la manœuvre autour des activités souveraines d'Atos.
Oui, exactement. Vous savez que Bruno Le Maire avait dit qu'il surveillait et qu'il allait essayer de construire une solution nationale, hein, il y a 15 jours, autour de ses activités, hein, à la fois de cybersécurité et les supercalculateurs d'Atos. Ces contrats très importants avec notamment l'armée française pour la dissuasion nucléaire, pour les sous-marins, même pour les centrales nucléaires d'EDF. Et donc, ouais, il faut qu'il reste français et en tout cas proche de l'État. Airbus avait regardé, a abandonné, et donc maintenant, l'État reprend les choses en main. C'est directement l'agence des participation de l'État, l'administration de Bercy qui se plonge dans le dossier et qui le reprend en main, orchestre cette solution nationale et essaye, et en tout cas pousse le groupe Dassault Aviation, évidemment très proche de l'État dans l'armement, pour être à la manœuvre. C'est une solution qui ne plaît pas forcément à Dassault Aviation à la base, hein, qui ne souhaite pas reprendre ses activités, mais en tout cas une source proche du groupe nous dit clairement qu'il fera un effort pour que ses activités restent françaises dans la mesure où elles entrent dans la conception du Rafale.
Bon, effectivement, enjeux cruciaux, et on en saura un peu plus dans les prochaines heures.
Demain matin, en tout cas, voilà.
Merci beaucoup Mathieu Pechberti. On poursuit, 18h04, on poursuit avec cette mise en garde des États-Unis et de la France face à la déferlante de produits chinois. La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, se sont exprimés tous les deux aujourd'hui sur la question. Et vous allez voir que les deux camps ont les mêmes arguments face à la concurrence chinoise. Timothée Marouzet.
Tous unis face à la Chine. C'est ce qui ressort à quelques heures d'intervalle entre les discours américains et français. À Pékin d'abord, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a rappelé que les États-Unis ne laisseront pas leurs industries se faire étouffer par les produits chinois à bas coût.
Le marché mondial est inondé par des produits chinois au prix artificiellement bas, ce qui remet en question la viabilité des entreprises américaines et étrangères. Il y a comme un air de déjà-vu.
À Paris, même son de cloche du côté de Bruno Le Maire, autour de ses homologues italiens et allemands. Il souhaite que l'Europe montre les dents en simplifiant ses normes et en augmentant sa compétitivité. Il dénonce un retard européen face à la Chine.
La Chine et les États-Unis ne nous attendront pas. Et la Chine et les États-Unis ne nous feront aucun cadeau. Nous sommes à un moment critique entre le protectionnisme américain et le risque de voir arriver sur le marché européen, des produits chinois à prix cassé.
Le ministre de l'économie a rencontré ensuite le ministre chinois du commerce de passage à Paris. Au cœur des discussions, les voitures électriques chinoises. Là encore, un point de tension depuis plusieurs mois. L'UE ayant décidé de les taxer lourdement pour concurrence déloyale.
Timothée Marozé, on poursuit avec cette réunion de la dernière chance sur l'emploi des seniors. Bonsoir Caroline Morisseau.
Bonsoir.
Les syndicats et le patronat sont réunis depuis 9h du matin pour tenter enfin de parvenir à un accord après 3 mois de négociations. Mais visiblement, Caroline, c'est laborieux. On n'y est toujours pas.
C'est ça. Chacun campe pour l'instant sur une position très divergente. Les organisations patronales veulent toujours absolument instaurer un nouveau CDI senior, enfin, qu'ils ont rebaptisé pour faire passer la pilule, mais réservé aux demandeurs d'emploi de plus de 60 ans et qui leur permettrait de rompre ce contrat une fois la retraite à taux plein du salarié atteint. Les syndicats n'en veulent absolument pas. Pour eux, c'est une ligne rouge. Derrière, le MEDEF et la CPME refusent toujours d'instaurer le fameux compte épargne temps universel qui permettrait aux salariés de stocker des congés et de les conserver d'une entreprise à l'autre. Autre sujet, autre divergence, le patronat est prêt à ce que l'emploi des seniors devienne un sujet de négociation obligatoire dans les entreprises de plus de 300 salariés. Là, les syndicats demandent à ce que ce soit dans toutes les entreprises des 50 salariés. Puis surtout, ils veulent que soient instaurées des pénalités pour les entreprises qui ne jouent pas le jeu, ce qu'évidemment le patronat refuse.
Bon, donc en gros, on est d'accord sur rien. Et cet après-midi encore, visiblement, on était loin de trouver un consensus.
C'est ça, les discussions sont laborieuses, nous ont dit les syndicats il y a encore quelques heures. Donc les discussions pourraient s'éterniser jusqu'à tard dans la nuit, et c'est à ce moment-là que chacun pourrait lâcher du lest, en tout cas ce qu'espèrent les responsables syndicaux. On sait que c'est souvent dans la dernière ligne droite que se conclut un accord, et on sait aussi que patronat comme syndicat ont tout intérêt à s'entendre, parce que de cet accord dépend derrière le fait que le gouvernement valide l'accord sur l'assurance chômage qui a été conclu entre les partenaires sociaux en novembre dernier. Or, dans cet accord, le patronat a obtenu une baisse des cotisations de 0,05%, ce qui est peut-être de nature à les convaincre de conclure un accord sur l'emploi des seniors. Et puis cela enverra évidemment un très mauvais signal, à un moment un signal de divergence, d'incapacité à s'entendre des partenaires sociaux, à un moment où le gouvernement promet une nouvelle réforme de l'assurance chômage et où il menace régulièrement de reprendre la main sur la gouvernance de l'UNEDIC.
Merci beaucoup Caroline, et on en parle dans 5 minutes avec Marc Ferracci, évidemment un peu aux avant-postes de ce genre de réforme, qui sera l'invité d'Edwige Chevrillon. Et puis pour finir, on va parler un peu d'immobilier pour finir ce journal. Bonsoir Léo Dumas.
Bonsoir.
Le réseau Century 21 vient de publier son baromètre du premier trimestre tout à l'heure, et visiblement le marché sort un peu la tête de l'eau, on va dire ça comme ça, avec des prix qui continuent de baisser, Léo.
Oui, c'est la première bonne nouvelle, moins 3% environ sur un an au niveau national, et si on regarde seulement à Paris, c'est moins 9%, on est désormais à 9 100 € le mètre carré. En fait, les prix grimpent dans trois régions uniquement, Provence, Alpes-Côte d'Azur, Nouvelle-Aquitaine et Bourgogne-Franche-Comté, et ils baissent partout ailleurs. Deuxième raison d'espérer pour le marché immobilier, la demande semble un peu plus vive. Les indicateurs de Century montrent que les acquéreurs relancent leurs projets et leurs démarches, mais ce n'est pas encore assez pour redresser le marché. Les premiers effets positifs de ces chiffres sont attendus pour la fin d'année, car au premier trimestre, même si elle ralentit, la chute des ventes se poursuit, moins 11% sur un an, et ça c'est aussi parce que la correction des prix n'est pas encore suffisante au regard des taux d'intérêt toujours élevés. On est à 3,9% en moyenne aujourd'hui. Pour retrouver un niveau comparable de taux, il faut remonter en 2012. Et en 2012, Century 21 nous dit que les biens étaient entre 17 et 19% moins chers qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup Léo. Il y a encore un peu de rattrapage à faire, effectivement. 18h09, on va sur les marchés.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview dans un instant ou même tout de suite puisqu'il est en studio à mes côtés, c'est Marc Ferracci, député des Français de l'étranger et vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale. Bonsoir Marc Ferracci.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous, je sais que les agendas sont assez compliqués parce qu'il faut trouver des économies, il faut trouver des pistes, il faut trouver des accords. Pendant que nous parlons, il y a peut-être un accord qui est signé justement sur les parcours professionnels et sur l'emploi des seniors. Et puis ensuite, évidemment, la deuxième salve sera sur la énième, la quatrième réforme de l'assurance chômage. Vous nous direz pourquoi. Juste avant de passer sur l'accord sur les seniors, qu'est-ce qui est important pour vous? En plus, vous, vous avez des propositions, même si vous êtes très proche du pouvoir et du président, qui vont un peu à l'encontre de ce que dit le Premier ministre. Donc ça va être un peu compliqué à comprendre, mais on va essayer de comprendre. Vous avez vu ce sondage qui dit que 30% des jeunes ne veulent pas de seniors. Ils en veulent bien dans les autres entreprises, mais pas chez eux. Et 38% des cadres. Ça vous inspire quoi?
Ça m'inspire qu'il y a un sujet culturel auquel il faut s'attaquer. Il y a beaucoup de leviers pour permettre aux seniors d'être plus en emploi. Vous savez, les 60-64 ans, ils ont un taux d'emploi, c'est-à-dire une proportion de gens qui travaillent, qui est deux fois moindre que chez nos voisins. C'est 30% chez nous, c'est 60% ailleurs. Donc, il y a un vrai sujet. Le sujet, il s'attaque par différentes faces. Il y a un sujet culturel. Moi, je suis pour mettre un petit peu de pression sur les employeurs pour dévoiler ce que sont leurs pratiques de recrutement. Il y a des discriminations à l'embauche sur les seniors. J'ai porté une proposition de loi qui vise à généraliser ce qu'on appelle les testings en matière de lutte contre les discriminations.
Testing et name and shame, pour
exactement,
parler français.
Exactement. Ouais. Testing, name and shame, si vous voulez, ou publicité des noms des entreprises qui discriminent, soit sur les seniors, soit sur l'âge, soit sur le sexe, soit sur les origines. Et il y a effectivement un testing qui est en préparation sur l'emploi des seniors dans le cadre de cette proposition de loi. Mais il y a d'autres sujets sur lesquels il faut insister. Il y a des enjeux de reconversion professionnelle. Parfois, c'est très difficile.
Attendez, Marc Ferracci, on va en reparler, on va rentrer dans le vif du sujet. Il y a quand même cette question de, vous avez dit, culturelle, et puis il y a aussi cette question de, peut-être, de mettre plus la pression sur le patronat, parce que visiblement, il y a l'accord qui va être signé. Quand vous interrogez les syndicats, ils vous disent, il n'y a rien de révolutionnaire, on n'est pas dans le grand soir social, parce qu'il y a une forme de conservatisme du patronat. Est-ce qu'il faut faire quelque chose?
Écoutez, je pense qu'il faut inciter les entreprises, y compris les inciter financièrement. Moi, j'ai fait une proposition assez simple, c'est de faire évoluer quelque chose qui existe déjà, on n'a pas besoin de tout recréer, c'est un système de bonus-malus qui aujourd'hui lutte contre les contrats courts et ça marche, on peut le faire évoluer facilement pour inciter les entreprises à maintenir en emploi des seniors.
Ouais.
Concrètement, ça veut dire qu'il faut que le système tienne compte de ce que coûte l'entreprise à l'assurance chômage. Les seniors, on le sait, ils sont mieux indemnisés que les autres salariés, ils restent plus longtemps indemnisés par le chômage et donc ils coûtent plus cher.
Donc
si on fonde le bonus-malus là-dessus, eh bien, il y aura de bonnes incitations à maintenir les seniors dans l'emploi. Puis après, il faut faire en sorte que les seniors qui passent par le chômage retrouvent un emploi. Vous vous souvenez, pendant la réforme des retraites, on a discuté d'un index senior, c'est-à-dire un index qui dit quelle entreprise joue le jeu de l'emploi des seniors. Moi, j'étais assez favorable à cet index parce que quand vous allez sur le terrain, vous rencontrez des gens au-delà de 50-55 ans qui envoient des dizaines, des centaines de CV à des entreprises qui ne leur répondent pas. L'index, ça permettrait de cibler sur les bonnes entreprises, c'est-à-dire celles qui jouent le jeu de l'emploi des seniors.
Alors, je vous repose ma question. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à cette question du name and shame? Est-ce qu'il faut pointer les entreprises du doigt? Est-ce qu'il faut des sanctions? Parce que, évidemment, le MEDEF ni la CPME n'en veulent de ces sanctions. Mais est-ce qu'il faut y aller jusque-là ou pas?
Vous savez, les discriminations sur le marché du travail, tous critères confondus, c'est l'âge, le sexe, les origines, ça coûte 150 milliards d'euros à terme à la collectivité. C'est France Stratégie, c'est France Stratégie qui a établi ça.
Non, c'est France Stratégie.
C'est France Stratégie en 2016 qui a, sur 4 ou 5 années, en point de PIB, ça coûte 150 milliards d'euros. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seraient en emploi sans les discriminations, qui n'y sont pas à cause des discriminations. Et ça coûte énormément d'argent, ça coûte des cotisations, ça coûte de la productivité, ça coûte des richesses. Donc à un moment ou à un autre, les entreprises, elles doivent aussi prendre en compte cela. Elles nous le disent, des problèmes de recrutement à régler. Et pourtant, elles continuent, pour certaines d'entre elles, pas pour toutes,
Il suffit de regarder les taux de chômage.
Des pratiques de recrutement qui sont parfois discriminantes. Donc je pense qu'il faut une prise de conscience. Le fait de faire des testings est de nature à aider cette prise de conscience. Et puis après, il faut accompagner les entreprises.
Oui, mais attendez, vos testings, Marc Ferracci, vous êtes souvent ici à ce micro, ça n'a pas avancé. Vous êtes toujours dans l'idée d'en faire.
Bien sûr.
Mais on n'en fait pas.
Mais on n'en fait pas parce que cette proposition-là n'a pas encore été adoptée. On a une commission mixte paritaire mercredi, dont je ne sais pas si elle sera conclusive. Peut-être qu'on sera obligé d'aller en deuxième lecture. Oui. En tout état de cause, moi je suis quelqu'un d'opiniâtre. Donc ce texte, je pense qu'on l'adoptera et on l'adoptera dans une version ambitieuse à la fin. Et j'espère qu'on multipliera les testings et notamment les testings à l'embauche sur les seniors.
Sur cet accord, c'est un peu aujourd'hui, c'est un peu la séance de la dernière chance, non, pour trouver un accord.
Les partenaires sociaux sont en train de négocier au moment où on se parle. On sait qu'il y a des points durs dans la négociation, ça a été dit sur votre plateau il y a quelques minutes. La question du compte épargnant universel dont une partie des organisations patronales ne veulent pas.
On se demande pourquoi, il reste une question un peu d'organisation, ça serait plus compliqué.
Je pense que la préoccupation, la crainte, c'est effectivement que ça déstabilise certaines entreprises, mais justement, un accord c'est fait pour discuter des détails, pour dire regardez, le compte épargnant universel c'est épargner des jours de congé quand vous êtes jeune et que vous avez la possibilité de ne pas tous les prendre, pour pouvoir à 45 ans vous reformer, pour pouvoir prendre une retraite plus précoce. Concrètement, on pourrait tout à fait discuter de la manière dont on organise tout ça dans le cadre d'un accord interprofessionnel. Donc moi, je regrette qu'il y ait cette rigidité, ce blocage de la part de certaines organisations patronales sur le CETU.
Du patronat, dites-le. Vous êtes sur le business.
Pas toutes, parce que l'UDP, les artisans, se sont déclarés, eux, favorables au CETU. Donc c'est le MEDEF et la CPME qui aujourd'hui sont en position de blocage.
Pourquoi ils sont ringards, ils sont conservateurs?
Non, je n'utiliserai pas ces termes, mais je pense qu'ils ont des préventions qui ne se justifient pas. Moi, je pense que par le dialogue, on peut trouver des voies de passage et par exemple préserver les petites entreprises des effets de bord qui peuvent exister avec ce genre de dispositif.
Mais alors, le problème de cette négociation, de la dernière chance sur cet accord, avec le gouvernement qui a promis de reprendre l'accord si l'accord était signé, mais il y a quand même toutes les organisations, syndicales et patronales, ils ont le couteau sous la gorge. Parce que avec Gabriel Attal, donc, qui a menacé, qui a dit qu'il voulait une quatrième réforme de l'assurance chômage, qui veut reprendre la main, qui veut, pardonnez-moi, mais piquer la cognate de l'assurance chômage, de l'Agirc-Arrco, je fais un peu de provoque. Chacun son tour, Marc Ferretti. Est-ce que c'est une manière un peu de tuer le dialogue social? Parce qu'ils sont obligés de trouver un accord, même si c'est à minima.
Bon, déjà, l'accord qui est en train d'être négocié, il porte sur des sujets bien plus larges que l'assurance chômage. Il y a l'emploi des seniors avec la question des retraites progressives, des reconversions. Il y a l'usure professionnelle, il y a le compte épargne temps universel. Donc c'est plus large. Mmh. Et puis il y a une dimension assurance chômage. Il faut quand même savoir que les partenaires sociaux, ils ont négocié sur l'assurance chômage à l'automne. Mais ils n'ont pas coché toutes les cases que leur avait demandé le gouvernement.
Bah, attendez, ils ont coché leurs cases. Après, ils n'ont pas coché forcément. La case que voulait sur le fait de décaler le départ à la retraite.
On leur a envoyé un document de cadrage, le gouvernement leur a envoyé un document de cadrage pour cadrer la négociation, comme son nom l'indique, qui disait qu'il fallait faire des économies sur ce que l'on appelle la filière senior. Oui. 440 millions d'euros d'économies. Oui. Rien n'a été fait sur ce sujet parce que les partenaires sociaux ont dit on renvoie ça à la négociation globale sur l'emploi des seniors. Ouais. Donc l'enjeu de cette négociation sur le volet assurance chômage, c'est que s'ils font effectivement ce qui était prévu par le gouvernement à l'automne, eh bien le gouvernement validera rétroactivement l'accord qui a été signé sur l'assurance chômage.
Mais de toute manière, il y aura une réforme sur l'assurance chômage.
Voilà.
Le Premier ministre l'a dit. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est
tout à fait, mais
c'est un peu ubuesque,
sujet,
non ?
Sur ce sujet, d'abord, s'il y a une réforme, elle passera par le dialogue social. Il faut bien en avoir conscience. S'il y a une réforme, elle va consister à demander aux partenaires sociaux de négocier de nouveaux paramètres et de nouvelles règles d'indemnisation ou d'affiliation pour l'assurance chômage. Donc concrètement, on ne court-circuitera pas le dialogue social. C'est ce que prévoit la loi, de demander aux partenaires sociaux de négocier. Et ensuite, effectivement, il faut tenir compte d'un contexte qui a changé. Aujourd'hui, vous avez toujours des tensions de recrutement qui sont très fortes. Vous avez, moi, quand je vais sur le terrain, des entreprises qui n'arrivent pas à recruter. Et vous avez la nécessité de résoudre ce problème pour aller vers le plein emploi. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait dans une réforme de l'assurance chômage? On donne des incitations aux acteurs, que ce soit les entreprises ou les personnes qui cherchent un emploi, pour accroître le niveau de l'emploi. Pour moi, c'est ça une réforme de l'assurance chômage.
Oui, mais en même temps, regardez, sur les termes de l'assurance chômage, donc les syndicats, les patronaux et les salariés ne sont pas d'accord. Vous n'êtes même pas d'accord avec le Premier ministre, puisque le Premier ministre, lui, il veut raccourcir la durée d'indemnisation, il veut passer peut-être de 15 à 12 mois, en tous les cas, c'est comme ça, ça se passe en Allemagne. Et vous, vous dites, non, ça sert à rien. Il faut, c'est la durée d'affiliation pour toucher les droits à l'assurance chômage.
Effectivement, donc, j'ai une divergence de vue. J'ai une divergence de vue sur ce sujet.
Et pourtant, vous êtes vice-président du groupe Renaissance à l'Assemblée nationale, et donc, encore une fois,
on n'est pas
de Macron.
On n'est pas des godillots, vous le savez. On exprime des divergences, on exprime des différences, mais je n'exprime pas de divergence sur le principe d'une réforme. Je pense qu'une réforme est utile et nécessaire. En revanche, sur les modalités de la réforme. La durée d'indemnisation, si on la baisse, d'abord, ça produit des effets, mais dans un temps assez long, parce qu'il faut attendre que les gens arrivent au bout de leur période d'indemnisation. Ensuite, ça touche des gens qui sont parfois en difficulté parce qu'ils sont au chômage depuis longtemps. Moi, je préconise
plus... Donc, ils ne savent pas comment retrouver un job.
Je préconise plus de jouer sur la durée d'affiliation, c'est-à-dire le nombre de mois que vous avez besoin de travailler pour être au chômage. Pourquoi ? D'abord, parce que c'est plus juste. Vous touchez des gens qui sont employables par construction, puisqu'ils sont déjà en emploi, on leur demande de travailler un peu plus. Ça a des effets beaucoup plus rapides. Et puis, dernier élément, on a mis en œuvre en 2023 ce fameux principe que vous connaissez, qui est la contracyclicité, qui consiste à dire, quand la situation du marché du travail s'améliore, on diminue la durée d'indemnisation. Aujourd'hui, la situation du marché du travail s'est stabilisée, voire le taux de chômage augmente un tout petit peu. Donc il me semble préférable d'agir sur d'autres paramètres que la durée d'indemnisation. Voilà l'expression de ma divergence, mais ce n'est pas une divergence sur le principe ou non d'une réforme, c'est une divergence sur la manière dont on l'amène. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose.
Oui, mais enfin, excusez-moi, mais c'est quand même une vraie divergence de fond avec la réforme préconisée par le Premier ministre.
Écoutez, le Premier ministre, il a dit une chose, il a dit que tous les paramètres étaient sur la table. Il y a un paramètre quand même qu'il a écarté, je pense qu'il a eu raison de le faire, c'est le montant de l'indemnisation. Parce que le montant, on l'a déjà réformé dans les années précédentes, et en plus, on est assez proche de nos voisins. En revanche, sur la durée d'affiliation, permettez-moi de terminer avec ça. Aujourd'hui, en France, il faut travailler 6 mois sur les 24 derniers pour ouvrir un droit à l'assurance chômage. En Allemagne, c'est 12 sur les 24 derniers. Et dans la plupart des autres pays, on est proche de ce ratio de 1 jour sur 2. Donc, concrètement, je pense qu'on est aujourd'hui singulier et il faut agir sur ce sujet.
Oui, mais alors pourquoi, enfin, est-ce qu'il n'aurait pas été bien qu'il y ait quand même un accord, au moins un front commun de la majorité ?
Écoutez, moi je discute avec mes collègues, je pense qu'il y a peut-être des voies de passage. Moi je défends cette idée de l'affiliation et on verra à la fin ce que le gouvernement fera. Mais encore une fois, le gouvernement, il va donner...
Ça rapporterait combien ? Est-ce que vous avez fait au moins une étude d'impact ?
Non mais attendez...
Parce que c'est un peu le problème...
Les études d'impact, j'en ai fait beaucoup, plutôt j'en ai fait faire beaucoup. Quand j'étais conseiller de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, ça ne se fait pas sur un coin de table avec deux gribouillis. Ça se fait en utilisant des bases de données dont dispose Pôle emploi, France Travail maintenant, dont dispose l'UNEDIC. Et donc, il faut faire tourner des simulations un peu lourdes. Ce ne sont pas les parlementaires qui ont accès à ces données, mais le gouvernement fait probablement ce genre de simulation aujourd'hui.
Ah bon ?
Ah bah, j'espère que... Bah,
et vous en avez fait, là, au moment, au moins sur votre mesure à vous, non ? Vous ne savez pas ? Ce que vous proposez, votre proposition ?
Ah ben moi, j'ai une proposition de principe qui consiste à dire qu'il faut passer de 6 mois à plus que 6 mois. Okay. Mais je n'ai pas dit si c'était 8, 10...
Non. Voilà. Si je vous pose la question, Marc Ferracci, c'est vrai que y a, certains disent mais réforme de l'assurance chômage, en fait, ça ne rapportera pas grand-chose. Or là, il faut trouver 60 milliards d'économies.
Mais vous savez, une réforme de l'assurance chômage, il ne faut pas la faire pour faire des économies, il faut la faire pour améliorer le niveau et aussi la qualité de l'emploi. Ça, ça fait faire des économies et ça fait faire des recettes supplémentaires. Parce que quand vous mettez les gens au chômage...
Ça a été présenté.
Mais ça, je pense que c'est une manière de présenter qui, effectivement, aurait dû mettre plutôt l'accent sur les impacts sur l'emploi que les impacts sur le budget. Alors, moi, j'ai toujours dit qu'une réforme de l'assurance chômage, j'ai même dit dans l'hémicycle, la semaine dernière, à Gabriel Attal lui-même, à qui j'ai posé une question au gouvernement, j'ai dit qu'une réforme de l'assurance chômage ne devait pas avoir pour objectif premier de faire des économies, mais d'améliorer le niveau et la qualité de l'emploi.
Elisabeth Borne, Olivier Dussopt aussi, à ce même micro, il y a quelques semaines. Sur la question, justement, du déficit. Est-ce que, d'abord, est-ce que vous êtes tombé aussi de l'armoire lorsque vous avez connu les chiffres du déficit de la France, des finances publiques ?
Effectivement, le déficit 2023 était prévu à 4,9%, il est de 5,5%. Ouais. C'est un écart qui est très important. C'est un écart qui ne résulte pas d'un dérapage des dépenses. Les dépenses, elles ont été maîtrisées, il faut le dire.
Ouais,
ça résulte de recettes.
Elles continuent d'augmenter.
Ça résulte, oui, mais elles sont ce qu'il était prévu qu'elles soient. C'est ça bien. Résulte d'un niveau de recette qui est inférieur à ce qu'on avait prévu. Ouais. Pourquoi ? Parce que les droits de notaire ont été inférieurs, parce qu'un certain nombre d'entreprises ont passé des provisions, ce qui a limité leurs résultats, et avec des recettes d'impôts sur les sociétés inférieures. Bref, tout ça est plus difficile à anticiper sur le volet recettes que sur le volet dépenses. Mais je veux le dire, il n'y a pas d'insincérité budgétaire, sinon la Cour des comptes l'aurait dit, et elle n'a pas décelé d'insincérité budgétaire.
C'est très rare, quand même. Le niveau atteint par les déficits publics, c'est très très rare, a dit le premier président de la Cour des comptes.
Bien sûr, c'est un niveau, mais c'est un niveau qui résulte aussi de la situation.
C'est un échec, quand même, quelque part, pour vous, pour votre majorité.
Vous savez, avoir protégé les Français, leur pouvoir d'achat, à la fois durant le Covid et durant la crise en Ukraine, avec les effets inflationnistes qu'elles avaient.
Les Allemands connaissent la même chose, les Espagnols ont connu la même chose, les Italiens ont connu la même chose.
Pardonnez-moi, les Allemands sont en récession et pas nous.
Oui.
Les Allemands sont
en récession. Oui, mais.
Pardonnez-moi, Edwige.
Plus 0,1 ou moins 0,1.
Ce que nous avons fait a aussi contribué à soutenir la consommation et donc à soutenir la croissance. Il faut quand même avoir cela en tête. Je pense que le rebond que nous allons connaître fin 2024, début 2025, quand les taux vont baisser, l'inflation ralentit, et c'est un élément favorable pour le rebond économique, eh bien ça va nous permettre de réduire les déficits beaucoup plus rapidement. Moi, j'attends. Le gouvernement va publier ses prévisions de trajectoire pour les prochaines années. J'espère qu'elles resteront ambitieuses en matière de réduction de déficit. Et si on continue à faire des réformes comme celle de l'assurance chômage, on y arrivera.
Si vous dites, comme a dit le Premier ministre, on va rester en dessous des 3% en 2027, etc. On saura. Mais enfin, il faut que ça soit réaliste, voire réalisable.
Mais moi, je pense qu'on peut atteindre cet objectif.
Vous avez une minute pour nous dire, en chiffrant, nous dire où est-ce qu'on va trouver des économies.
Il faut marcher sur deux jambes. Déjà, il faut créer des emplois parce que c'est avec des recettes supplémentaires qu'on fait baisser les déficits beaucoup plus qu'avec des dépenses en moins. Ensuite, sur les dépenses, moi j'ai fait des propositions. On dépense 4 milliards d'euros pour des aides à l'embauche des apprentis, dont un grand nombre profite à des gens qui sont dans l'enseignement supérieur. Or, l'apprentissage dans l'enseignement supérieur, moi je l'ai dit quand j'étais encore universitaire, ça n'a que très peu de valeur ajoutée en matière d'insertion professionnelle. On pourrait faire de grosses économies sans nuire à la croissance et sans nuire à l'insertion des jeunes. On a des sujets comme la réduction ou la limitation des dépenses de santé. Vous savez qu'on dépense 5,7 milliards d'euros, vous voulez des chiffres, je vous en donne, sur le transport médicalisé. Ouais.
Bon, ça c'est en route, si je veux dire.
Ce sont des sujets sur lesquels je pense qu'on est fondé à avoir une régulation beaucoup plus stricte. Et je pense que le gouvernement, avec les parlementaires, notamment ceux de la Commission des affaires sociales dont je fais partie, sont en train d'y réfléchir. Il y a tout le volet, encore une fois, des niches fiscales. Les niches fiscales et sociales, moi j'ai fait un rapport il y a déjà un an sur les exonérations de charges patronales qui a abouti à des éléments de réduction des exonérations sur les hauts salaires parce que ça ne crée pas d'emplois et ça n'améliore pas la compétitivité des entreprises. Bref, il y a beaucoup de choses à faire.
Est-ce qu'il faut taxer, en un mot, est-ce qu'il faut taxer les super profits et les super riches ?
Moi, je ne sais pas définir, on a eu ce débat l'année dernière pendant le débat, ce que c'est qu'un super profit. Si on arrive à identifier des profits qui résultent de facteurs extérieurs qui ne résultent pas de la bonne gestion des entreprises,
effectivement... La crise de la Covid
pour les laboratoires de biologie médicale, à qui on a demandé une contribution parce qu'ils avaient fait beaucoup de profits grâce aux tests. La contribution sur les énergéticiens, on les a déjà mis à contribution, les énergéticiens, parce qu'ils ont fait de gros profits grâce au prix de l'énergie. Si on arrive, il y a une task force qui est en train d'y réfléchir,
mandatée
par Gabriel Attal, si on arrive à identifier ce genre de rentes qui sont indues, c'est-à-dire qui ne résultent pas d'un comportement d'innovation, eh bien, on peut effectivement regarder des contributions. Je suis d'accord.
Merci beaucoup, Marc Ferracci. Ben, vous nous direz si justement sur la question du testing, ça passe ou ça passe pas. Voilà, ça sera intéressant de voir, de suivre votre PPL, comme dit votre projet de loi. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business. Nos experts sont arrivés. Edwige Chevrillon est revenu en plateau. Rebonsoir Edwige. Emmanuel Lechypre est là. Bonsoir Emmanuel. On commence avec votre interview de Marc Ferracci, évidemment en plein dans l'actu avec cette réunion de la dernière chance sur l'emploi des seniors.
Oui, absolument. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, il n'est pas complètement d'accord sur ce qui est en train de se dérouler. Bon, il dénonce quand même à demi-mot, mais le conservatisme du patronat. Et lui,
Qu'à demi-mot, même.
Et mercredi, enfin, donc après-demain, lui, il propose une proposition de loi sur le testing. C'est-à-dire, vous savez comment ça fonctionne, ça va marcher pour les boîtes de nuit, et ben là, maintenant, ça sera pour les entreprises, pour savoir si oui ou non, elles discriminent les seniors. Et à quitte à avoir derrière du name and shame. Et lui, il propose un bonus-malus sur l'emploi des seniors. Parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est là, ça peut toucher le chiffre qui sort, et France Stratégie, j'avais oublié ce chiffre, 150 milliards ça devait être chiffré en 2016, il faut revoir, mais enfin en tous les cas...
Oui, sur toutes les discriminations.
Toutes les discriminations, et notamment la discrimination des seniors. Mmh. Ce qu'il dit, c'est le manque d'emploi qui, là, coûte le plus cher, et c'est là où on pourrait trouver des économies. Et puis après, sur cet accord-là, et sur la nécessité ou pas ensuite d'une réforme de l'assurance chômage, bah, il n'est pas d'accord avec son Premier ministre, si j'ose dire, parce qu'il est quand même vice-président... Emmanuel est content. Vice-président du groupe
enfin,
Renaissance.
Des gens raisonnables.
Lui, il dit il faut une réforme, mais c'est pas sur la durée d'indemnisation. Mmh, ouais. Lui, c'est la durée qui ouvre les droits.
C'est ça, la durée d'affiliation.
Ouais. Qui ouvre les droits à cette indemnisation. Mmh. Parce qu'il dit là, à la limite, les seniors, ils sont déjà en place. Donc, bah, c'est très bien. C'est, bah, ils vont être obligés de rester en place. Enfin, ils vont être maintenus dans l'entreprise. Enfin, en tous les cas, c'est ça la volonté et c'est ça qu'il faut obtenir. Si par contre vous durez, vous raccourcissez la durée d'indemnisation, bah, à ce moment-là, les gens qui sont très seniors, très éloignés de l'emploi depuis longtemps, bah, pour lui, c'est très compliqué de retrouver un job. C'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes en dehors du système de retrouver un job.
Oui, bien sûr. Voilà. Emmanuel, ça vous paraît plus pertinent, effectivement, de durcir. On rappelle qu'il faut avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers pour pouvoir toucher les allocations. Et Marc Ferracci rappelait que chez nos voisins européens, c'est plutôt 12 mois. Un jour travaillé pour 2 jours de chômage. Ça vous paraît plus pertinent comme critère l'affiliation que l'indemnisation ?
La durée de l'indemnisation.
Alors, oui, c'est sans doute plus pertinent, notamment pour les seniors, effectivement, comme l'a expliqué Edwige. Après, je crois que, quelle que soit la réforme paramétrique qu'on fera sur l'indemnisation du chômage, il faut quand même considérer que ce qu'on pouvait attendre de ces réformes incitatives pour retourner au travail, je veux dire, 80% du chemin a déjà été fait dans les réformes précédentes. C'est-à-dire que, honnêtement, quand on se replace 3-4 ans en arrière, on se dit oui, effectivement, la générosité de notre système d'indemnisation du chômage explique en partie qu'il y ait un certain nombre de chômeurs plus élevés en France qu'ailleurs, explique en partie le chômage des seniors. Là, on a quand même fait beaucoup. C'est-à-dire que le gain marginal à chaque fois qu'on fait une réforme de l'indemnisation du chômage, et que les vraies raisons qui expliquent encore qu'il y ait un chômage plus élevé en France qu'ailleurs, elles sont multiples et elles ne tiennent pas qu'à ça. Moi, je trouve quand même assez cette obsession sur l'indemnisation du chômage.
Elle est aujourd'hui
excessive. Après, regardez dans les entreprises.
Pas que des seniors, Edwige, puisque là, la lettre de cadrage que m'a envoyée Gabriel Attal, là, il y a la négo en cours des partenaires sociaux sur les seniors.
Oui, mais le gros problème, il est sur les seniors.
Comment ?
Le gros problème, il est sur les seniors en France.
Ah oui, non, mais sauf que là, le tour de vis, il va être général. Dans la quatrième réforme de Gabriel
Attal. Mais encore une fois, je pense qu'on n'a pas résolu tout le problème de l'incitation à reprendre un emploi qui est encore aujourd'hui trop faible et on retrouve trop de gens qui finalement gagnent mieux leur vie à ne pas travailler qu'à travailler. Et ça, même si on a fait des efforts.
Ça plaide pour une réforme. Emmanuel, ce que vous
dites. Oui, mais pas de l'indemnisation. C'est pas ça le problème. C'est pas l'indemnisation du chômage qui est en jeu. C'est par exemple tout ce dont vous pouvez avoir
une prime d'activité.
Oui, c'est ça.
Vous perdez comme avantage.
Et tout ce qu'il faut dépenser en plus. Et c'est là où ça va pas. Et ça, c'est pas lié à l'indemnisation du chômage.
Ça, c'est la désmicardisation.
Oui. Voilà. Donc je pense qu'il y a à aller vers ça. Il y a encore tout ce qui concerne le chômage de mobilité. Et c'est vrai que c'est compliqué de changer la mentalité dans les entreprises. Quand vous voyez les études qui s'alignent les unes après les autres, dans une entreprise sur deux, les RH disent qu'elles ont reçu explicitement la consigne de privilégier finalement les CV des gens plus jeunes que les CV des seniors, que les augmentations
entre 30 ans et 45 ans
pour les seniors, il y en a de moins en moins.
La formation,
etc. Et alors même cette étude là qui est sortie la semaine dernière,
oui. 30%,
en gros, c'est les seniors, c'est comme les centrales nucléaires, quoi. Vous trouvez que c'est formidable, mais vous en voulez pas dans votre entreprise.
Elle a 30%. Il y a 30%.
30% voilà. Des salariés, 40% des cadres qui disent ouais, les seniors dans l'entreprise c'est super, mais dans la nôtre non.
Ouais, c'est ça.
C'est pas adapté à notre secteur, c'est pas pour nous.
Oui, mais
ils savent pas trop utiliser les nouvelles techno, etc.
C'est très français et qu'il y a un côté très culturel. Dans les entreprises françaises, chez les DRH, on voit bien qu'il y a un blocage systématique, même dans les algorithmes, parce qu'il y a des tas d'entreprises qui recrutent un peu grâce à des algorithmes, parce qu'elles sont submergées par le nombre de CV. C'est assez étonnant, quoi.
Non, mais c'est sûr que quand vous avez raisonné comme une pompe refoulante pendant 30 ans, se transformer en pompe aspirante, ça demande une petite révolution.
Comme vous dites, c'est culturel. Le gouvernement a réussi à faire changer l'image des apprentis. Peut-être que maintenant, il va réussir à faire changer l'image des seniors. Parce que c'était la même question, hein, c'était culturel.
Question, et ça l'a fait sourire, je le pose aussi à Marc Ferracci, c'est de dire... Moi, je veux bien, mais est-ce qu'il y a aussi une forme de jeunisme quand même incroyable de la part du président qui a bloqué certaines nominations en trouvant que les personnes étaient trop âgées ? Mmh. Il a nommé, il se vante d'avoir été le plus jeune président de la République, très bien, mais d'avoir nommé le plus jeune président, premier ministre, 34 ans. Là, il y a le non-renouvellement d'Augustin de Romanet à la tête d'ADP parce qu'il a 63 ans. Ça va être idem pour toute une série de grands patrons à la tête d'entreprises publiques ou semi-publiques. Donc, il a aussi, il nomme que des gens qui ont entre 35 et 40 ans.
Oui, alors, je pense malheureusement qu'Edwige, c'est pas le seul critère.
Non, mais oui, je rentre pas dans les autres critères. Je vous les laisse, Emmanuel. Je vous les laisse.
Non, mais je pense que ce critère de l'âge, malheureusement, il est secondaire par rapport aux autres critères qui sont les relations que ces futurs gens importants entretiennent avec Emmanuel Macron. Vous retrouvez quand même des proportions assez substantielles de gens avec qui il a été, soit à l'ENA, etc., dans les nominations.
Oui, c'est réseau, tous ces réseaux.
Il a plus que des jeunes, mais ce que fait tout le monde, hein.
Oui, mais
plus que des jeunes, il a tendance à nommer les gens qu'il connaît et à qui il pense confiance. Qu'il peut faire confiance.
En tout cas, un dernier point sur l'assurance chômage. Toute la polémique, c'est de savoir si c'est une réforme d'économie ou une réforme d'attractivité.
Ah, voilà.
Lui dit il ne faut pas faire cette réforme pour faire des économies.
C'est ce qu'il a dit. Il disait qu'il a dit ça au premier.
On reproche beaucoup ça à Gabriel Attal.
Exactement. Et c'était très mal présenté, en fait.
Ouais, voilà. Et puis, il y a quand même un point... là.
Pas comme les retraites, hein, à l'époque, d'ailleurs.
Et puis, il y a quand même un point qu'on ne soulève pas trop, mais qui est quand même très étonnant. C'est-à-dire que si on décide de diminuer, par exemple, les allocations chômage, d'une façon ou d'une autre, quid de nos cotisations ? C'est-à-dire que... Est-ce qu'on va toujours payer le même montant de cotisation ?
Ouais.
C'est-à-dire, est-ce que si on diminue le prix au final, est-ce que nous, les prélèvements... Je sais pas, moi je croyais qu'on avait un gouvernement qui voulait redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Donc je sais pas, si d'un côté on baisse le coût de l'indemnisation du chômage, il serait peut-être normal qu'à l'autre bout, les salariés profitent d'une baisse des cotisations. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ?
Eh ben c'est l'État qui va la piquer.
Hein ? Ah bah oui, ça je pense que...
La cagnotte.
Ça, je pense que oui. Mais là, il y a quand même une petite entourloupe.
Petite entourloupe, en tout cas, on verra bien ce que donnera s'il y a de la fumée blanche ou pas à l'issue de la réunion emploi senior.
Et demain, François Omri, le patron de la CFE-CGC. Grande gueule, toujours à regarder.
Et en même temps, le fait qu'il y ait cette réforme de l'assurance chômage qui arrive rend quand même un peu caduque, de toute façon, l'accord qui sera éventuellement.
Oui, tout à fait. Mais enfin bon, dans le rapport de force.
Beaucoup d'efforts pour pas grand-chose.
Non, ça c'est sûr.
Oui, sauf qu'ils ont quand même les partenaires sociaux, ils ont un couteau sous la gorge. Parce que s'ils n'ont pas d'accord. Eh ben, c'est encore une faiblesse supplémentaire vis-à-vis du gouvernement.
Puisqu'on parle d'accord, cette fois, on va se plonger dans l'actualité des entreprises. Mathieu Pechbertin's en plateau. Rebonsoir, Mathieu. Pour parler du sujet favori d'Emmanuel Le Chypre, Atos.
Le feuilleton Atos.
Et un accord qui doit être trouvé donc entre la direction de l'entreprise et ses créanciers. La réunion se tient en ce moment même, Mathieu, parce que là, on rentre vraiment dans le dur du dur de la restructuration de la dette avant un accord qui doit être présenté demain matin.
Alors, demain matin, en tout cas, sera annoncé le plan de la société. Les créanciers, ils vont d'abord l'étudier. Mais l'idée, c'est effectivement, Atos présente donc ce soir, là, en ce moment même, ses créanciers. Elle dévoilera au public, en tout cas aux investisseurs, demain matin, son plan de restructuration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'entreprise a 4,5 milliards d'euros de dettes. Elle ne pourra pas les rembourser. Il y en a à peu près 80% à rembourser d'ici un an. Ouais. Et donc, cette dette, il va falloir en effacer une partie, tout bonnement et simplement, comme c'était fait dans beaucoup de restructurations.
Ça, c'est admis, pour le coup. Il y a plus de débat là-dessus, quoi.
Le suspense, c'est combien ? Est-ce que c'est la moitié de la dette ? 50% ? 40%, 55%,
la dette va être restructurée, ça.
Et très fortement. Ouais. Et il y aura une annulation, un effacement massif de cette dette. Et en contrepartie, les autres créanciers devront rééchelonner les dettes qui seront prolongées sur peut-être 2-3 ans. Ça, c'est ce qui va, en tout cas, déboucher des négociations avec les créanciers. Ça va durer environ 4 mois. Puisque, je le rappelle, Atos est dans une procédure judiciaire de conciliation avec la nomination d'un mandataire, d'une mandatrice ad hoc, d'ailleurs, Hélène Bourboulou. Ensuite, Atos, pour faire face à ces nouvelles dettes, devra aussi être renflouée. Donc la société va devoir dire demain
de combien elle a besoin,
exactement. Alors, les chiffres varient selon les scénarios, encore une fois, entre 500 millions, 1 milliard pour les plus pessimistes. Je pense que c'est plutôt dans la fourchette haute, mais effectivement, Atos devra faire une augmentation de capital massive, sachant que la société vaut environ 200 millions d'euros en bourse aujourd'hui.
Voilà. Est-ce que les repreneurs se bousculent pour injecter ces centaines de millions d'euros ?
Ah bah il y en a un, oui.
Donc voilà, il y en a un.
Et le titre du coup, après
pour le moment, il y en a un et un seul qui est officiellement déclaré, c'est le premier actionnaire d'Atos, c'est une société qui s'appelle OnePoint, un fondateur qui commence à être bien connu, David Layani, qui lui pousse comme un forcené depuis plusieurs semaines pour essayer de s'imposer à la fois chez Atos, auprès des investisseurs, des créanciers.
Et ouais, mais il peut mettre autant d'argent, hein,
il peut mettre. Il a été alors et comme il n'a pas d'argent, enfin. Il en a très peu par rapport aux besoins.
Lui-même.
Il s'est déjà endetté par rapport au fait d'avoir acheté 8% du capital d'Atos.
Voilà, il a un petit renfort de cavalerie. Là.
Il a besoin. Lui dit qu'il peut investir environ 400 millions d'euros dans Atos, sachant qu'il faudra peut-être le double. Et donc son idée, en tout cas, c'est évidemment d'être adossé à un investisseur financier qui l'a rejoint hier, qui s'appelle Walter Butler, qui est bien connu dans le capitalisme français pour avoir racheté beaucoup d'entreprises depuis une vingtaine d'années. À la fois des sociétés en redressement, donc où il y a eu beaucoup de restructuration, et il y a aussi eu des entreprises qu'il a développées comme un fonds d'investissement, on va dire classique, avec des acquisitions. Donc il y a un peu les deux volets, mais c'est vrai qu'il a une image de redressement, de restructuration d'entreprise. On n'a pas de détails encore aujourd'hui sur ce qu'il est prêt à mettre, comment, avec David Layani, parce qu'il faut attendre de savoir ce dont la boîte a besoin, à la fois pour réduire sa dette et son capital. Et puis dernière chose, c'est un peu long, mais pour être complet. Il y a une activité à part dans Atos, dont on parle beaucoup ici, évidemment, les activités dites de souveraineté, en tout cas pour l'État français, ils les considèrent comme telles. C'est des activités de supercalculateurs, c'est ces ordinateurs extrêmement puissants qui sont notamment utilisés par l'armée française, par beaucoup d'entreprises publiques dans le secteur de la défense.
Et dans le nucléaire.
Et puis la cybersécurité. Et ces activités-là, l'État veut qu'elles restent françaises, adossées à un groupe, en tout cas, ou public, ou l'État est actionnaire. C'est pour ça qu'Airbus avait regardé cette activité, ils ont jeté l'éponge. Aujourd'hui, l'État, on va dire, reprend vraiment le dossier en main. C'est Bercy qui véritablement reprend, en tout cas, la gestion de ses activités, de ses activités. Ils sont en train de recruter une banque conseil pour les épauler. C'est directement géré par l'agence des participations de l'État à Bercy. Mmh. Et ils sont en train de tirer la main du groupe Dassault Aviation, dont l'État est très proche, évidemment, pour essayer de les reprendre.
Oui, voilà, maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le communiqué qu'on a reçu hier, donc de Walter Butler et fait aussi de David Layani, c'est que tout ce qui est cybersécurité, intelligence artificielle, est un dossier qui les intéresse beaucoup, puisqu'ils veulent créer, je crois, un géant, justement, de la cybersécurité et de l'intelligence artificielle, sachant que Walter Butler, il avait racheté, vous savez, tout ce qui était justement l'intelligence, qu'on peut appeler aussi un peu une forme d'espionnage, mais pas que, le groupe de l'ADI. Donc, c'était un groupe très, très connu à cette époque. Enfin, maintenant, il l'a revendu. Donc, il connaît très bien ces sujets-là. Et visiblement, ils ont aussi cette volonté de créer un grand groupe dans l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Peut-être pas les supercalculateurs, j'ai pas pu mentionner ça. C'est peut-être le point où je ne sais pas. Mais donc là, il y a peut-être à voir un découpage un peu difficile à faire.
Bah oui.
Non, mais là, vous avez raison, c'est que ces activités-là, on part du principe depuis le début qu'elles termineront dans le giron d'un groupe public, parapublic, type Airbus, encore une fois Dassault, même si c'est pas du tout public, c'est totalement privé.
Mais, le
groupe est tellement proche de
l'État,
de l'État français, de par sa les commandes dans le monde de l'armement, qu'on le considère quasiment comme public à tort. Bref, effectivement, David Lagné a toujours dit, lui, qu'il était, par définition, que c'était un groupe français, qu'il était capable de prendre en charge ses activités
sans l'État
souveraines, mais il faut avoir effectivement le tampon de l'État et du gouvernement. C'est ce à quoi il essaie de s'atteler d'ailleurs, mais il faut aussi avoir des sous.
Ouais, ça c'est le point très important.
À la fin, il faut de l'argent, parce que à la fin, ceux qui votent, ce sont quand même les créanciers. Voilà, il faut pas l'oublier.
Bah, évidemment.
Et il faut connaître l'état réel des comptes et de la société.
Alors ça,
c'est ça qui a effrayé quand même beaucoup.
Alors de toute façon,
on le saura peut-être enfin demain.
Je sais pas si on saura tout, parce que je pense qu'on saura jamais tout chez Atos d'ailleurs. Enfin, ça c'est juste mon petit avis. Mais effectivement, demain on saura en tout cas de combien la société a besoin. Je pense qu'on va être un petit peu surpris quand même. Du trou.
Bon, on y verra plus clair à partir de demain matin. Demain, c'est aussi la saison des assemblées générales qui commence.
Le bal des AG,
voilà, c'est le printemps, c'est la saison des AG. On commence demain avec Vinci. Mais le patron qui fait parler de lui chaque printemps
sujet
de sa rémunération, c'est Carlos Tavares, le patron de Stellantis. Et on a, pour sa rémunération que certains jugent excessive, et notamment des agences de conseil en vote aux actionnaires, il y en a trois qui sont sortis du bois ce week-end pour appeler à voter contre. Alors je rappelle que c'est purement consultatif, Parce que même si les actionnaires vont compte...
Tu parlais tout à l'heure, et là, c'est Neymar Shim pour les...
Ouais. Il y a deux ans, les actionnaires avaient voté majoritairement contre, mais ça n'avait rien changé puisque Stellantis, le siège, est basé à Amsterdam et que dans le droit néerlandais, même si on vote contre, ça ne change rien. Mais le symbole est là. Et donc là, à nouveau, on appelle à voter contre. Je rappelle que le board propose un package fixe et variable, enfin surtout variable, de 36 millions d'euros.
Ouais. Et jusqu'à 36
jusqu'à
millions.
Jusqu'à 36 millions, effectivement.
On le saura dans quelques années, en fait, combien il touchera, parce que c'est des...
Oui, il y a des bonus en action.
Non, je le dis, c'est juste parce que
c'est pas d'argent qui va tomber du jour au lendemain. C'est important de le préciser.
Ouais.
Que ce soit à court, moyen ou long terme, est-ce que 36 millions d'euros, c'est justifié pour rémunérer le patron de Stellantis, qui se lance?
La vérité, c'est qu'il n'y a pas de, enfin, je veux dire, il n'y a pas de juste niveau économiquement ou moralement. Le seul niveau à partir duquel le salaire d'un patron pose problème, c'est quand ça pose problème, effectivement, aux salariés et au climat social dans l'entreprise. Après, il n'y a pas de morale dans tout ça. Regardez, il y a des boîtes où le salaire du patron est extrêmement élevé. Il n'y a jamais de débat. Si vous prenez, chez Dassault, justement, un des patrons,
Je pense pas qu'Éric Trappier soit 36 millions, hein, de la ligne.
Non, mais ils Dassault sont système.
Non, mais attendez, ils ont.
Ah, Dassault système, oui, mais là, parce que c'est différent.
Oui,
c'est-à-dire
d'accord.
Il y a eu des stock options au tout départ.
Non, oui, mais sauf que personne se plaint de la rémunération, rémunération. Donc, c'est là où ça peut poser problème. Après, il y a des explications. Hein,
Mais pardon, sur l'argument social, c'est précisément celui des agences.
Oui.
Elles disent, on va le payer cette somme-là, même si encore une fois, c'est sur plusieurs années, au moment où il licencie des milliers de personnes.
Mais oui, sauf que c'est pas à elle de le décider. C'est-à-dire que c'est aux gens de l'entreprise de décider.
C'est précisément social, là, qui est
voilà, voilà. Après,
ça va crisper.
Il faut rappeler juste quand même une chose, c'est que si le salaire des patrons a augmenté aussi considérablement, multiplié par 7, par 8 depuis 40 ans, c'est pour une raison très simple, c'est aussi que l'étoffe financière des entreprises qu'ils dirigent a été multipliée à peu près d'autant. C'est-à-dire que c'est exactement proportionnel.
D'accord.
Donc ça veut dire que c'est pas plus compliqué aujourd'hui de diriger une grande entreprise comme General Motors ou comme Boeing. C'est juste que l'enjeu financier est 6 ou 8 fois beaucoup plus important.
Ouais.
Et que quand vous regardez ce que pèse le poids de la rémunération du patron dans les comptes de l'entreprise, c'est un poids qui est à peu près constant au fil des années, c'est toujours le même. Donc il faut tenir compte de ça. Après, est-ce qu'il est mieux payé que les grands patrons du secteur
dans l'automobile américaine?
Il a un salaire à l'américaine.
Est-ce que il y a un mercato possible? Il se trouve qu'on est quand même sur un des secteurs dans lesquels il y a potentiellement un mercato possible. Cette histoire,
les
grands patrons, c'est comme les grands champions, etc. Il se trouve que sur le secteur de l'automobile, oui, c'est pas impossible qu'il y ait ça. Donc voilà, ça fait...
Surtout, c'est qu'il a fait une restructuration absolument incroyable. C'est gentil, 36 millions d'euros, je trouve ça... énorme. Bon, on est bien d'accord.
Mais même lui, vous lui en donnez la moitié, Edwige, ça ne change pas sa vie, vous voyez.
Non, surtout, c'est quelqu'un qui vit quand même relativement simplement. Cela dit, il a fait un job incroyable. Quand vous voyez la réussite, quand vous voyez là, la publication des marges, on en parlait même avec Luca de Meo, le patron de Renault, qui lui aussi se fait augmenter, mais enfin pas dans les mêmes proportions. La marge, c'est le double de celle de Renault. Et donc il me dit, je lui ai envoyé un petit SMS de félicitations parce qu'on voit son niveau de marge. Donc si vous voulez, c'est quand même, il y a 14 marques, il y a combien de marques?
Quasiment 14 marques.
Il a quand même fait
Donc vous dites que c'est pas volé.
Moi je dis que c'est pas volé, mais bon, je trouve qu'en tous les cas ça.
Non, mais alors moi je me prononcerai absolument pas sur savoir si c'est volé ou pas. Et ce qui est important, je pense, c'est pas de se référer, on va dire, est-ce un niveau suffisant ou pas au niveau de la société, au niveau sociétal. Ça, chacun se fera son pion. Mais si on reste chez Stellantis, si on regarde bien les critiques, elles viennent pas seulement des salariés ou des syndicats, pour qui le jeu est assez habituel de critiquer la rémunération des patrons. Elles viennent de sociétés, de conseils pour les investisseurs, donc de beaucoup d'actionnaires. Et ces actionnaires, qu'est-ce qu'ils disent? Ils envoient aussi un message qui n'est pas entendu, parce que ça fait plusieurs années qu'ils le disent, au conseil d'administration de Stellantis, qui est censé les représenter. La société n'appartient pas à Carlos Tavares et un petit peu à John Elkann, l'héritier d'Agnelli, mais il appartient aussi aux autres actionnaires. Et ces autres actionnaires disent certes, Stellantis a fait 18-20 milliards d'euros de bénéfices.
Quasiment 19,
cette année, 18, pardon. Mais au regard du corps social de l'entreprise et de ce qui se passe, et notamment, comme l'a dit Edwige, la restructuration qui vont arriver en Italie, vu le climat social en France, le climat social en France chez Stellantis n'est pas bon. Il faut lui dire.
Oui.
Donc,
C'est difficile.
Mmh. Appeler les syndicats, ils vous le diront. Mmh. Bon. Il faut mettre ça en regard. Quand on regarde les autres exemples, parce que Tavares, évidemment, il concentre. Il a réussi, il a créé un groupe mondial. Il y a 10 ans, il a repris une boîte qui était
quasiment en faillite.
Non, mais très bien. Mais quand on regarde les critiques dans les autres sociétés, effectivement, le patron d'Assosystème, dont on parle à la fois souvent, mais sans qu'il y ait de problème. Alors, lui, il a des montants comparables, on va dire autour de 20 et 30 millions d'euros. Ouais. Ça fait 25 ans qu'il était chez Dassault-Systèmes, qu'il a contribué à la fois à créer et à développer. Il en est actionnaire.
C'est vrai qu'il fait sans doute meilleur être salarié de Dassault-Systèmes que de Stellantis.
Et surtout, allez voir les politiques de rémunération chez Dassault-Systèmes, qui, depuis des années, ont des augmentations de salaire importantes, sans être mirobolantes, mais importantes, ce qui n'est pas le cas chez Stellantis, où il y a des participations d'intéressement quasiment...
C'est un métier beaucoup plus capitalistique.
C'est beaucoup plus... Non, mais cette société Dassault-Systèmes paye mieux ses ingénieurs, et les ingénieurs d'Assosystèmes ne se plaignent pas.
Ce n'est
pas
le cas.
On peut prendre plein d'exemples. L'année dernière, la rémunération d'Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, qui n'était pas comparable en termes de montant absolu, mais a été votée à 58% par les actionnaires, ce qui est extrêmement faible.
Ouais, enfin, très juste,
pourquoi Même raisonnement. Vous êtes chez Carrefour, vous avez un salaire, peu importe, qu'il soit 10 ou 12 millions d'euros.
Non, mais Carlo Tavares, il a fait une restructuration réussie qui n'a pas encore réussi Alexandre Bompard.
Le problème, c'est que dans une société de la grande distribution qui fait très peu de marge, où c'est très concurrentiel, où les salariés, une partie des salariés sont effectivement très, peu payés, c'est toujours ça qui revient. C'est à l'intérieur de l'entreprise. Donc,
l'échelle des salaires.
Bon. Les investisseurs envoient quand même un petit message, évidemment à Carlos Tavares, mais aussi au conseil d'administration de Carlos Tavares.
Le mot de la fin,
dire, faites attention.
On divise le salaire de Tavares par deux et on divise les profits par deux. Vous préférez quoi?
Mais non, le sujet, c'est...
Je pense que c'est des problèmes de riches. Ils sont assis sur leur montagne de dividendes et là, ils peuvent se permettre de faire les fines bouches. Mais le jour où les profits seront plus...
Le sujet des investisseurs, c'est de dire à Tavares, si vous voulez garder vos 30 millions, faites attention à la base. Bon. Et comme Tavares s'auto-proclame...
Il y a une prime de 4 000 euros en moyenne versée au...
Regardez, il y a encore deux ans, on parlait souvent du salaire de Patrick Pouyanné chez Total. On n'en parle plus.
Pourquoi il a fait des
primes? Ils ont fait en sorte qu'il y ait de la redistribution plus importante pour les salariés.
Il y en a toujours eu chez Total.
Encore 100 actions gratuites distribuées la semaine dernière.
C'est pas le même univers.
Allez, vous voyez, le débat là est déjà enflammé. C'est le début du printemps. Merci à tous les trois. Edwige Chevrillon, Mathieu Pechberti, Emmanuel Le Chypre et donc François Omril qui sera à votre micro demain à 18h10.
Oui, absolument, pour voir s'il y a un accord. Et quel accord? Est-ce qu'il sert à quelque chose? Parce que il sert à rien.
Et sans langue de bois, comme toujours, avec le patron de la CFE-CGC. Allez, on marque une pause. C'est déjà la fin de la première heure de Good Evening. Vous nous retrouvez en replay, en podcast, sur l'appli BFM Business. Et nous, on se retrouve en direct dans deux minutes pour la deuxième heure de Good Evening. À tout de suite.